Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing, au programme de ce 480e numéro de l'histoire. On va parler de la All Shit Race de Bristol. Et pour nous en parler, qui de mieux de quelqu'un qui est planqué dans ses chiottes, c'est Aloïs. Salut Aloïs.
Et salut Geoffroy, bonjour à tout le monde.
Et Lilian aussi est là, vous l'avez entendu. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Alors, je vais commencer avec toi, Lilian, parce que tu as eu l'honneur et le courage de suivre cette course avec moi en direct jusqu'à ce que tu abandonnes.
Ouais, lâchement. En voyant l'heure de réveil, je me dis, oh, fais chier, ça va être compliqué de regarder ça en direct. Et j'ai abandonné Geoffroy lâchement, c'est vrai.
C'est ça. Bon, Aloïs, on savait qu'il ne serait pas là, mais bon. C'est pas grave, il a aussi suivi la course en résumé, en différé.
En replay complet
d'un œil, c'est ça.
Mais Manella All-Star, c'est ça.
Et donc finalement, c'était la discussion qu'on avait en off, c'était bien sympa cette Open, et qu'est-ce qu'on s'est fait chier sur la All-Star en elle-même, quoi, Lilian?
Bah, les années se suivent et malheureusement se ressemblent. On a eu beau là, changer de piste, hein, c'était très prometteur d'aller nous faire une All-Star sur le Bristol Motor Speedway. Sur le papier, ça envoie du lourd, c'est clair. On avait voulu mettre en place la nouvelle règle avec le cône pour choisir la position à l'extérieur ou à l'intérieur de la piste sur un restart. Et puis l'Open, super course, on a eu du spectacle, ça, voilà. C'est du grand spectacle comme on peut en avoir sur short track. Dès le début de la course, ça a joué des pare-chocs et des portières dans tous les sens. On a eu un peu de tôle froissée.
Oh, et puis des égaux froissés aussi. Hein.
Mais je ne sais pas ce que vous en pensez avant de venir à la bataille, aux batailles personnelles, mais vous en avez pensé quoi de la All-Star à Bristol?
Bah, comme la All-Star à Charlotte, quoi. Ça fait 35 ans qu'on se fait chier.
C'est... ouais.
Enfin, c'est quand même, comme tu disais, Lilian, je trouve que c'est prometteur, parce que vu la gueule de l'Open, il y a quand même de quoi faire, surtout sur un short track.
Oui, mais en fait, quand tu regardes bien l'Open, qu'est-ce que c'est? C'est les pilotes qu'on ne met jamais en avant le reste du temps, parce que c'est les pilotes qui ne gagnent pas, donc c'est les pilotes qui jouent un peu, tu mets des guillemets, mais leur vie, puisqu'ils savent qu'ils peuvent aller chercher $1 million, mais au final, une fois que l'Open est passé...
Après, justement, tu parles du $1 million. Les pilotes qui jouent la All-Star, $1 million, j'ai pas envie de dire que c'est rien pour eux. Mais pour bonne partie d'entre eux, c'est pas grand-chose, j'ai envie de dire.
Oui. Bah, quand tu vois...
1 million, ils s'en foutent.
Quand tu vois comment on va les dépenser de chez Elliott...
Ah, ça, j'ai pas vu. Ce sera peut-être une info qui sert à rien. Mais...
Ouais, ça pourrait être une info qui sert à rien. En fait, il va acheter un camion rempli de palettes de Mountain Dew pour aller les boire avec Ryan Blaney, quoi.
Waouh, magnifique.
Ça vend du rêve, quoi.
Ouais. Donc bon. Après, le problème, est-ce que c'est là ou est-ce qu'ils ont, quel intérêt ils ont pour la All-Star, quoi. Il y a peut-être aussi ça. Hein. Ils sont là, ils font les tours, ça va vite et puis c'est terminé, quoi. On a eu beau mettre du PG1 à l'intérieur des virages pour essayer de retrouver l'ancien Bristol. Désolé de contredire Larry McReynolds, hein, malgré toute l'expérience qu'il a en NASCAR, mais l'ancien Bristol. Je sais pas où il l'a vu, mais moi je le cherche toujours.
J'ai bien une réponse, mais ça va pas te plaire. Et oui,
ça passait à l'extérieur sans problème.
Oui, oui, il y a bien plus qu'à vu.
Il avait envie de se pousser pour passer à l'intérieur. Non. Donc non, c'était pas le retour de l'ancien Bristol.
Non.
Et au final, étonnamment, la position sur la piste était prédominante, comme sur un bon vieux 1,5 mile qu'on adore. Mm-hmm. Et puis, une fois que le pilote de devant avait le clean air, c'était terminé. Et on le voit sur les tours menés. Chase Elliott emmène 60. Ryan Blaney emmène 72. Bowman emmène 2. Et qui emmène 6?
Kevin Harvick. Kevin Harvick.
Voilà. Sur une course qui fait 104 ou 105 tours.
Non, 140.
140, voilà. Donc, je pense que ça résume... C'est pour une All-Star sur laquelle on attend quand même du spectacle, autant de tours menés par deux pilotes.
Mais Est-ce que le problème de la All-Star, justement, c'est pas la All-Star? Parce que, je m'explique, vous n'avez pas compris la question. en fait, ce qui se passe, c'est que qui est-ce qu'on a à la All-Star, globalement? Tous les meilleurs pilotes de la saison et de la saison précédente. Mais tous ces pilotes qui s'affrontent semaine après semaine, qui se connaissent par cœur, avec ces mêmes voitures. Finalement, il n'y a pas de changement de règlement. On ajuste juste un tout petit peu les segments pour faire semblant que ça va aller mieux. Mais on a les mêmes pilotes, on a les mêmes voitures, on a le même règlement technique, on a les mêmes pistes. Et finalement, il n'y a rien de nouveau. Tu prends une All-Star, Aloïs par exemple, en basket ou en foot. C'est les joueurs se jouent pas toutes les semaines les uns contre les autres. C'est des équipes, ils se connaissent tous, mais ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ça ressemble à quelque chose malgré tout. Là,
et en vrai, pour te suivre dans ton raisonnement, Geoffroy, foutez-les tous sur un dirt track dans des sprint cars et on n'en parle plus.
Oui, mais oui, exactement.
Qu'on fasse un truc justement qui sorte de l'ordinaire. Et parce que là, désolé, mais la All-Star à Bristol, et je pense que même la All-Star à Charlotte, la All-Star à Atlanta, la All-Star où tu veux la mettre où tu veux, ce sera juste une course de cup réduite.
Wow, tu peux les mettre dans leur voiture, mais sur un dirt track, hein, on peut aller à Eldora, sur l'Eldora Speedway.
Oui, tu peux trouver des solutions, mais...
Il y en a plein, je pense.
Il faut, plutôt que de chercher à mettre des néons sous les voitures ou à réduire les numéros, je pense que ce serait plus intéressant d'être radical sur cette question de la All-Star.
Oui, parce qu'après, on peut tester des choses. Je veux dire, le fameux règlement là, avec le cône, c'était pas immonde.
C'est... Oh, franchement, ça a bien fonctionné, mieux que ce que j'espérais, pour être honnête.
Ouais, par contre, le seul reproche, c'est la Fox qui a été un petit peu, à mon sens, à la rue. On avait du mal à savoir qui aurait dû être à l'intérieur, qui aurait dû être à l'extérieur sur un restart classique. Quoi.
Oh, je pense qu'avec des graphiques, ça se règle rapidement.
Oui, ou ça manquait en fait d'un petit drone juste au-dessus du point de séparation pour voir déjà.
Après,
l'avais parfois d'une vue aérienne, mais pas systématiquement.
On était plutôt bien lotis avec le track pass, puisque pendant la pub aux États-Unis, ils mettaient la caméra fixe du turn one pour voir justement cette cone rule. Du coup, nous, on pouvait voir qui choisissait l'intérieur ou l'extérieur. Donc, on était un peu avantagés, mais je confirme que c'était pas très très clair.
Mais enfin, tu voyais, mais tu savais plus si le pilote il était 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, il y a un moment, tu t'y perdais quoi. Ça manquait un tout petit peu de clarté pour faciliter la compréhension.
Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était la meilleure innovation de cette édition de la All-Star.
Oui, après les pneus. Les numéros, ça m'a pas
en
choqué.
Conséquence.
C'est mieux que ce que je pensais.
C'est pas choquant. C'est.
On s'attendait à ce que ce soit d'une police très petite et finalement ça va.
Ouais,
paraît identique à ce qui se faisait avant.
Mm-hmm.
Juste reculer pour laisser plus de place à un sticker pour un sponsor quoi.
Ouais. Donc bon après voilà la seule chose ça a été les néons. Ça a fait un petit peu un flop. Enfin, honnêtement, j'ai pas compris l'intérêt.
Non.
Bon, on le savait d'ailleurs, on l'a dit en début de semaine, hein,
c'est ça.
Que ça allait être nul et que ça a été nul.
Hormis prendre une demi-heure de plus dans les dents entre l'Open et la All-Star pour que justement il fasse nuit et qu'on aperçoive à peu près ces néons de kéké, enfin, il n'y avait aucun intérêt. Quoi.
Personnellement, j'ai préféré les essentiels de la Open, si on parle de couleurs.
Oui. Et donc, en fait, l'Open... On va revenir un petit peu sur l'Open.
Bah, c'est là qu'il y a le plus de choses à dire.
C'est là qu'il y a le plus de choses à dire. Et le plus mécontent, c'est quand même Bubba Wallace. On est d'accord, Lilian ?
À raison.
Ah, tu penses ?
Ah, c'est certain.
Hein, puis, petite interview à chaud des plus sympathiques.
Ah oui, on aime. On aime et je pense qu'il y en a un qui s'est pas fait que des amis sur cette journée.
Ah oui, parce qu'il a pas mis au tas que Bubba Wallace.
Après, c'est connu, on sait tous que Michael McDowell, c'est quelqu'un qui est très sanguin et qui n'hésite pas à mettre quelqu'un dehors. On l'a déjà vu plus d'une fois, moi, ça me surprend pas des masses. On peut le mettre dans la catégorie des Ryan Newman, des Clint Boyer, si on les chauffe un petit peu. Des pilotes qui sont très agressifs et qui n'hésitent pas à jouer du pare-choc pour faire leur place ou garder leur place. Et ça, c'est
j'avais pas souvenir, moi, tu vois, étonnamment.
Ah si, Michael McDowell, c'est quand même une sacrée brute.
Si tu veux, Michael McDowell, je vais pas dire que le seul souvenir que j'ai, c'est ces gros cartons à Watkins Glen et au Texas, mais pas loin, quoi.
Mais en tout cas, ça a fait du grabuge, ça a donné des belles scènes. Et je trouve que c'était quand même assez représentatif de la course open où on a eu pas mal de bump and run et de coups de portière. Franchement, c'était très agréable à regarder.
On confirme.
Et donc, au final, les pilotes qui gagnent les segments sur l'open, il n'y a rien d'illogique vu la forme du moment et la configuration sur la piste avec Harry Calmiron qui gagne le premier segment, William Byron le deuxième et Matt DiBenedetto le troisième. Tous sauf illogique. Et le choix du public, bah, au final, c'est Clint Bowyer, pareil, tout sauf une aberration. Et la réaction de Clint Bowyer en interview, encore une fois, c'est du Clint Bowyer dans le texte, c'est bien sympathique.
Oui, oui, bah, il l'a fait exprès, il l'a joué. Hein.
Bah, voilà pour l'Open, et ensuite, la All-Star. Je crois qu'une fois l'accident de Kurt Busch passé, je suis pas sûr qu'il se passe grand-chose.
Honnêtement, c'était une bataille, entre guillemets, hein, faut bien, on s'entend, entre Elliott, Harvick, Keselowski et Logano.
Et Blaney peut-être quand même.
Oh, et puis sur la fin, Kyle Busch.
Et sur la fin,
j'ai cru à un comeback en fin de course de Kyle Busch.
Mais non.
Honnêtement, Kyle Busch qui remonte jusqu'à Elliott, qui le fout dehors pour gagner la All-Star, j'aurais adoré la All-Star.
Et il se serait pas gêné.
Et il se serait pas gêné, on est d'accord.
Il se serait pas gêné. J'ai bien vu un gros retour d'Harvick sur la fin avec ses pneus neufs, mais en fait, non, il a manqué quelques tours.
De toute façon, Kyle Busch, vu comment il est déjà hué, je ne sais pas si tu as regardé à Louis la présentation des pilotes, mais c'était pas mal.
J'étais surpris du nombre de huées pour Denny Hamlin, par contre.
Ouais, pareil.
Je me suis dit, ah ouais, d'accord, pourquoi pas.
Mais oui, mais Denny Hamlin, souviens-toi, il y a 3 ans, il a touché à Chase Elliott. Et maintenant, Chase Elliott, pour le public, c'est anciennement Dale Earnhardt Jr. il y a 10 ans, quoi. T'y touches, t'es mort.
C'est le fils prodigue de l'Amérique.
Donc Logano Hamlin, t'as touché à Logano, ben, même combat, tu dégages. C'est peut-être un petit peu raccourci, mais à mon avis, il y a une grande part de vérité quand tu entends les acclamations qu'a récupérées de chez Elliott. Et on notera quand même que c'était à guichet fermé, Bristol, pour la All-Star, du fait des restrictions liées à la pandémie. Mais au final, il y avait autant de monde que sur une course classique, quoi.
Ouais, enfin, j'ai surtout noté très peu de masques en tribune.
Oui.
Mais bon. Oh, bah bienvenue dans le sud des États-Unis. Hein.
Ouais, on est quand même dans un pays où, tu le disais à Louis, je crois, voilà, la situation est. Enfin, le pays déclare ouais, la situation incontrôlable. Et il n'y a pas de masque. Booba Wallace en interview, pas de masque. Chez Elliott, pareil.
Byron, pareil.
Oui. Exact. Enfin, les masques, c'est une. Comment ?
C'est has-been les masques aux États-Unis. C'est ça.
Ils les mettent juste sur la Victory Lane.
Ouais, pour les photos quand même.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a un petit sponsor dessus pour certains.
Et oui, mais bon. C'est pas grave, enfin c'est pas grave si, mais faut s'y habituer et c'est ainsi. Je pense qu'on a fait le tour de la All-Star, messieurs, je crois que c'est la première fois qu'on va faire une émission aussi courte.
On va peut-être tenir la demi-heure.
Oui, Aloïs.
Je dis, on rattrape nos émissions de 50 minutes qui devraient en faire 30.
C'est ça, voilà, on va faire une demi-heure d'un quart d'heure. C'est pas.
Et ben, comme la All-Star, un résumé express.
Exactement. Du coup, on peut peut-être quand même parler un tout petit peu du Texas qui arrive, puisque le championnat reprend ses droits. Messieurs, dimanche soir, à l'issue de la course du Texas, on sera à la moitié de la saison. On aura fait 18 des 36 courses. J'ai envie de dire qu'il l'eût cru il y a 2 mois et demi, 3 mois de cela.
Eh ben, on peut tous aller brûler un cierge.
Oh, oui.
Ouais, et puis la NASCAR a surbondir.
C'est vrai.
Et puis, ça a été la première à décider de reprendre l'activité. Hein.
Et il n'y a eu qu'un seul pilote positif pour une semaine.
Deux. Johnson et oui, mais
Gauguin
depuis avant-hier. Bon, après, tu vas me dire, Gauguin, il fait que 4 courses cette année, c'est bon, quoi.
Bon, dans les autres années aussi.
C'est vrai. Mais voilà, t'as eu 2 pilotes et t'as eu quelques mécaniciens chez Stewartas et chez Penske de mémoire pendant la période où il n'y avait pas de compétition.
Donc, la NASCAR s'en tire plutôt bien, même j'ai envie de dire très bien, vu l'hystérie qui règne en ce moment au niveau de la NBA et de la NHL, qui devraient reprendre leurs droits d'ici 1 à 2 semaines, avec leur fameuse bubble. Mais c'est très, très, très volatile encore la situation. Et on a quand même l'impression que la NASCAR maîtrise son sujet et arrive à traverser la saison sans trop de péripéties. Ce qui est quand même incroyable quand on parle de la NASCAR.
C'est vrai, c'est peut-être la seule chose qui réussisse en 2020, quoi.
Ah, carrément.
Mais bon, voilà, c'est vrai que bravo, pour le coup, on aura le temps d'en reparler, mais ils ont réussi un sacré tour de force avec leur retour, et on arrive à avoir des courses sans public ou sans trop de public qui se passent bien, donc on verra. Après...
Et puis, bon, à partir comme ça, ils vont réussir à les claquer, alors 38 courses.
Oui, bah... Là, globalement, oui. Puisque,
on est parti pour, hein, c'est clair.
Le retard sera rattrapé à l'issue de la saison régulière. Les playoffs resteront sur les 10 courses, enfin sur les 10 pistes qui étaient prévues. Après, ce sera peut-être pas l'ordre initial, mais tu auras ta finale à Phoenix, tu peux être tranquille. Et puis voilà, après, la question, c'est de savoir si dès dimanche, on a le retour de la pluie sur nos courses.
Ah, ça te manque, ça.
Bah, ça fait très très dos, enfin... C'est le point négatif de cette saison en NASCAR, c'est la pluie et les orages qui se sont invités à toutes les courses. Ça a été un running gag, mais...
On peut pas y faire grand-chose, hein.
Ah, on peut pas y faire grand-chose, ça c'est...
Ouais, mais on a changé de diffuseur, ça va peut-être améliorer, qui sait.
Par contre, y a quand même une question que je me pose, messieurs, là, ce week-end. Le Texas, en plein mois de juillet, forte chaleur, avec du PJ1.
Ça va glisser.
Chaud.
500 miles, je sais pas comment ils vont finir, les pilotes.
Ah, ça va glisser, hein, je t'annonce.
Donc, ouais, je...
Oui, bah, ça va être de la vaseline, encore une fois. Ce que tu disais dans la dernière émission.
Ah oui, ça, à mon avis, ça, on est parti pour une course compliquée, mais bon.
Du coup, le vainqueur mène plus ou moins 100 tours?
Au Texas? Ouais, il en mène plus.
Bon, allez, mettons la barre un peu plus haute. Plus ou moins 200 tours?
Plus ou moins de 200?
Oh.
Non, de 200 sur 334,
beaucoup,
ça commence à faire beaucoup. Non, je vois bien un truc entre 130 et 150.
Ça peut se faire.
Tu vois, un petit Blenny...
Tu veux vraiment qu'on s'ennuie, toi.
Un petit Blenny ou un petit Harvick qui prend la main en milieu de... Enfin, en fin de deuxième segment et qui met tout le monde d'accord sur le troisième. Après, on verra, hein, je peux me tromper. J'espère me tromper, mais... C'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le Texas, messieurs?
Qu'on espère d'autres pilotes que les Ford aux avant-postes pour changer, ça serait pas trop mal.
Ouais, tu veux les horaires du Texas?
Ouais. Je suis preneur.
Si tu as, j'allais demander.
Ouais, je les ai, les horaires. Donc samedi, c'est que de la Xfinity et de la Truck. Et dimanche, la course. 13h50 en heure locale, 14h pour le. Enfin, 13h50 les pilotes aux voitures, 14h la course, 334 tours, 501 miles. Ça fait du 21h en France. On peut estimer un drapeau vert à 21h18 à peu près. J'ai pas l'heure, ah, donc.
J'aime bien, tu donnes des horaires à la con comme la NASCAR.
Non, mais bon, globalement, c'est à peu près ça. Après,
si le green flag n'est pas à 21h18 pétante. On te trash.
Attends. Tu vas aller réécouter l'émission de ce pas. J'ai dit, on peut espérer. J'ai pas dit, il sera A.
En fait, je crois maintenant, on va arrêter le pronostic des pilotes. On va faire des pronos sur les horaires des Green Flag.
Ah, c'est pas mal. Pour des points bonus, je dis pas non.
Donc, on l'a dit, trois segments, 105 tours pour les deux premiers, 124 pour le troisième. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, rien. Que c'est le Texas, que c'est un mile et demi, que c'est une course de 500 miles, ce qui est de plus en plus rare sur les ovales d'un mile et demi.
Que NBC, au niveau de la diffusion, prend le relais définitivement jusqu'à fin de la saison.
Voilà. Que Texas, il y a des lumières, si jamais il y a de la pluie. Donc ça peut être une course nocturne, si jamais. Et puis, bah, ce qui est bien, c'est comme tu le dis, c'est NBC, il y a du PJ1 sur la piste. Donc à mon avis, on peut faire un bingo, mais... Je pense qu'on va avoir un slide job de Dale Earnhardt Jr. Un bon paquet de fois.
C'est vrai que le potentiel est quand même assez élevé.
C'est ça. Mais un jour, il faudrait faire un bingo sur la saison, de ce que les commentateurs peuvent dire et sur les choses qui peuvent se passer. Mais bon, alors, on va pas le faire maintenant, la saison elle est plus que bien entamée. Donc voilà. Messieurs, rendez-vous ce week-end pour suivre les courses. La semaine prochaine pour débriefer tout ça. Je pense qu'on a été complet. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous ce week-end pour les courses, la semaine prochaine pour le débrief. Bonne semaine, bye bye.
Bonne fin de semaine à tous.
Bonne semaine à tous et bon week-end.